Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut essayer de définir un petit peu les termes. On entend souvent ce terme, intelligence artificielle, et en réalité, il désigne, selon les contextes, différentes choses. Par ordre de complexité et d'ambition, on a, dans un premier temps, une dénomination d'intelligence artificielle pour ce qu'on pourrait appeler plutôt de l'informatique avancée. C'est-à-dire, on a un problème qui est bien défini. Résoudre une tâche qui est assez complexe mais bien définie, et on va chercher à créer un programme informatique qui va résoudre ce problème. Donc en général, le problème peut être mal posé, c'est-à-dire qu'il peut être complexe à saisir, à capter, à représenter pour la machine, mais en tout cas on sait exactement ce qu'on veut résoudre. Exemple, on va faire en sorte qu'un aspirateur automatiquement aille nettoyer une pièce ou saisir un objet, ce genre de choses. Donc sur ces sujets-là, on est plus sur des problèmes d'ingénierie où on essaie de trouver un système qui va fonctionner pour résoudre une tâche bien déterminée. On veut que le système fasse quelque chose et pas autre chose en général. On cherche à résoudre une problématique de représentation de la perception, de traitement de l'image, de traitement du signal, reconnaissance vocale, synthèse de la parole, ce genre de thématiques. On les met dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est une version, je dirais plutôt ingénierie, où on essaie de résoudre un problème. On n'est pas sur le sujet de construire une machine dont l'intelligence est générique et qui est capable de résoudre finalement une grande gamme de problèmes. On en reparlera un peu plus tard sur la définition de, enfin, une définition possible de l'intelligence. On a aussi des gens qui travaillent en intelligence artificielle et qui sont positionnés, eux, plutôt sur le sujet de comprendre le fonctionnement du cerveau biologique, avec essentiellement des modèles neuronaux. Et donc là, on est dans une logique de reproduction du vivant, où on va essayer de reproduire le vol d'un oiseau en créant des ailes qui battent pour faire en sorte que l'engin décolle. Voilà, on est dans cette logique-là. Ça fait partie des thématiques de recherche de l'intelligence artificielle. On a un troisième type de recherche qui consiste à essayer de comprendre les mécanismes fondamentaux de l'intelligence en dehors de l'incarnation particulière qu'on peut trouver dans un cerveau. Et donc, on fait l'hypothèse, et donc le cerveau n'est pas la seule façon de créer de l'intelligence. Et on essaie de réfléchir aux mécanismes fondamentaux, plutôt au niveau de la représentation des informations et de leur traitement. On pourrait dire, on essaie de voler sans les plumes. On essaie de faire l'aérodynamique, la théorie de l'aérodynamique. C'est souvent ce qui est appelé l'IA forte, c'est-à-dire l'ambition de créer vraiment un système d'intelligence complet sur lequel on a une compréhension profonde des mécanismes sous-jacents. À partir du moment où on dit ça, il faut tout de suite réaliser quelque chose de très important, c'est que, à mon sens, l'intelligence artificielle, au moins dans sa troisième dénomination, quand on essaie de comprendre vraiment les mécanismes fondamentaux, en se détachant possiblement du cerveau, l'intelligence artificielle, dans ce sens-là, n'est pas une science, au sens traditionnel. Une science, on a en général un phénomène qu'on observe et on essaie de l'écrire à travers un modèle, qui est une représentation plus simple du phénomène, hein, on a abstrait de la complexité. Et puis ce modèle, on va le tester, l'exécuter, le comparer à ce que la réalité nous donne comme information. En faisant des expériences, des observations. Et voilà, et si le modèle correspond au résultat des expériences, on a une théorie qui est valide, qui est de facto acceptée par tous, hein, dans son domaine de validité. Et puis si ce n'est pas le cas, ben on n'a pas la bonne théorie, on continue à chercher, etc. Et puis quand on a trouvé la bonne théorie, en général, on essaie de faire d'autres expériences pour montrer qu'on s'est trompé et que c'était peut-être pas la bonne théorie, et on essaie de repousser comme ça les limites de la connaissance. Mais on n'a pas forcément ce mécanisme-là en intelligence artificielle parce que il n'y a pas d'arbitre comme pour la physique avec la nature, qui est l'arbitre donc des théories. On n'a pas d'arbitre naturel. C'est très difficile de savoir si on a atteint son but, si on a réalisé une intelligence artificielle. Alors il y a le fameux test de Turing qui a été imaginé pour essayer de répondre à cette question. Le test de Turing, c'est tout simplement l'idée que on va mettre dans une pièce une personne qui dialogue avec une autre personne dans une autre pièce, par un système de chat, par exemple, ou autre. Il y a donc une personne qui teste et une personne qui est testée. La personne qui teste a le droit de poser toutes les questions qu'elle veut à l'autre personne, dans le but de éventuellement démontrer qu'il ne s'agit pas vraiment d'une personne, mais qu'il s'agirait d'une machine. Et une machine qui passerait le test, c'est-à-dire qui arriverait à tromper la sagacité du testeur, serait déclarée comme une machine intelligente. Et donc on aurait réussi. Alors c'est un test qui est très critiqué, qui en fait n'est pas pratiqué hein, par la communauté scientifique, et qui, déjà pour commencer, parce qu'il y a des humains qui ne passent pas le test de Turing, donc il y a des gens qui, quand on s'amuse à faire ce test, il y a des gens qui sont considérés comme n'étant pas tout à fait humains. Puis ça pose la difficulté de définir vraiment formellement ce qu'on attribue comme, comme caractéristique à l'intelligence, et on n'a pas réellement de solution. Donc fondamentalement, à la différence des sciences plus traditionnelles, en particulier de la physique, on n'a pas d'arbitre ultime. On pourra éventuellement un jour constater qu'on a un système, bon, voilà, dont extérieurement les comportements sont de l'avis de tout le monde considérés comme intelligents. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Et en tout cas, c'est encore pire parce que sur le chemin qui nous amène à ce système, il n'y a pas forcément d'arbitre intermédiaire qui nous dirait « oui, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de progresser ». Il est assez probable que si on trouve la solution, on la trouvera d'un coup ou pas. Ce serait un peu comme si en physique, il avait fallu inventer le modèle standard et toute sa complexité à l'époque de Newton du premier coup. On voit bien que dans les sciences traditionnelles, il y a un mécanisme incrémental qui permet de lancer. Là, c'est pas évident en intelligence artificielle. Et donc, comme conséquence de ça, en réalité, le domaine est couvert un petit peu par des chapelles de conviction sur des axes de recherche et des directions qui sont prometteuses. Il n'y a pas vraiment d'arbitre ultime. Et ce que je vais vous raconter là, ben, je vais vous expliquer quelle est ma chapelle, mais ce que je vais vous raconter, bon, c'est en fait un point de vue. On peut très bien avoir d'autres points de vue qui divergent assez fortement par rapport à celui que je vais exposer, qui sont pas forcément pires ou mieux, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'arbitrage très fort. Alors il y a quand même des faisceaux de conviction, des choses qu'on accumule au cours du temps, des directions qu'on n'a plus aujourd'hui, qu'on considère comme étant des voies sans issue, c'est-à-dire concrètement sur lesquelles il y a très peu de chercheurs qui travaillent encore. Mais sur le fond, il sera difficile de vraiment dire, voilà, cette personne ou ce labo fait quelque chose qui ne marchera pas, parce que fondamentalement, il est difficile d'avoir un arbitre. Alors, ma chapelle, dans les points clés qui pilotent la façon dont je vois le problème, moi et d'autres chercheurs, il y en a trois, à mon sens, qui sont importants. Le premier, c'est le matérialisme. Je considère que tout ce qu'on observe peut s'expliquer par les lois de la physique. Le cerveau est donc une incarnation de l'intelligence, et puis c'est essentiellement des neurones, donc des atomes en bout de chaîne, qui interagissent les uns avec les autres suivant les lois de la physique, et qui, par la complexité de leur interaction, donnent naissance à des comportements intelligents. Il y a peut-être une loi de la physique qu'on ne connaît pas encore, et qui est à l'œuvre dans le cerveau, et qui, fondamentalement, est la vraie raison, la vraie cause de l'intelligence. Alors, c'est peut-être vrai, mais je dirais en suivant le principe du rasoir d'Occam, qui permet de dire, voilà, entre plusieurs explications, plusieurs pistes de recherche, on va essayer de prendre celle qui est a priori la plus simple pour commencer. Donc, suivant ce principe, il n'est pas très crédible d'imaginer qu'on ait besoin de quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qui est déjà dans le cerveau et dans les lois de la physique, qui est extrêmement complexe, pour donner naissance au comportement intelligent qu'on observe. Peut-être c'est pas le cas, mais on va déjà essayer d'épuiser cette hypothèse avant d'aller imaginer que l'intelligence est la résultante d'une loi physique inconnue qui serait à l'œuvre dans le cerveau. Donc on s'en tient à une approche matérialiste qui a pour conséquence immédiate que voilà, l'intelligence et le sujet de l'intelligence artificielle est un sujet possible. Il est en principe possible de reconstituer l'intelligence. Dans le pire des cas, si on n'est pas capable d'aller au-delà, on pourrait imaginer reproduire un cerveau à l'identique. Et justement, le deuxième point qui caractérise mon approche, c'est part du principe qu'il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que la complexité peut naître de systèmes simples. Vous pouvez avoir des règles simples qui donnent naissance à des manifestations extrêmement complexes. Si vous prenez des automates cellulaires, vous allez avoir des comportements émergents qui sont très spectaculaires. À la base, vous avez des règles extrêmement simples qui gouvernent le fonctionnement de l'automate cellulaire. Donc, en d'autres termes, si on pense ça, ça veut dire que l'intelligence et le comportement intelligent pourraient être issus de règles plus simples. En d'autres termes, l'intelligence est explicable. On peut proposer un modèle plus simple que l'intégralité du cerveau pour décrire ce que fait le cerveau. C'est peut-être faux, peut-être qu'il n'y a pas moyen de décrire, d'expliquer ce que fait le cerveau que d'aller cartographier neurone par neurone ce qui s'y passe. L'hypothèse sur laquelle on travaille, c'est que non, il y a des mécanismes de plus haut niveau. On peut décrire à un niveau plus abstrait ce qui se passe dans le cerveau, au même titre que, par exemple, si vous voulez décrire le comportement de, je sais pas, votre navigateur Internet, vous pouvez très bien le faire à un niveau d'abstraction assez élevé en termes de langage de programmation, d'échange d'informations, etc., sans forcément aller décrire ce qui se passe électron par électron dans le microprocesseur de votre ordinateur. Donc c'est le même genre d'analyse qui laisserait penser que oui, il est raisonnable d'imaginer expliquer le fonctionnement du cerveau en n'allant pas forcément le réduire au fonctionnement de chaque neurone. Bien qu'en fait, en effet, c'est ce qui se passe. Mais il y a des modèles de description de plus haut niveau qui existent conjointement au modèle soit atomique, soit neuronal. Donc, c'est un peu l'idée d'émergence. On peut faire émerger de la complexité à partir d'un modèle plus simple. Ou dit autrement, on peut avoir une théorie de l'intelligence. Le troisième axe, c'est l'importance, si on veut créer une intelligence avec laquelle on peut dialoguer et qui interagit avec son environnement, qui est notre environnement aussi, donc l'environnement réel, l'importance cruciale d'avoir cette intelligence plongée dans le monde réel, c'est-à-dire dans un robot, c'est-à-dire interagissant avec l'environnement. À la différence de systèmes désincarnés, on verra à travers un rapide panorama de l'histoire de l'intelligence artificielle, de systèmes qui vivraient dans une espèce d'abstraction et qui descendraient de temps en temps dans le monde réel, ou avec des problématiques cloisonnées entre la perception de l'environnement et puis la réflexion de l'autre côté. On va voir que ce modèle-là ne marche pas très bien et que donc l'importance d'avoir une intelligence artificielle située, c'est de connecter l'intelligence qu'on est en train de construire avec la réalité dans laquelle elle est censée interagir. Voilà, alors quand on dit intelligence, terme que j'emploie à répétition depuis quelques minutes, on peut essayer quand même de le définir, parce que c'est pas un terme très clair. Alors ça fait partie de ces mots que tout le monde pense comprendre, mais qui sont très difficiles à définir. Alors en réalité, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a pas mal d'efforts qui ont été faits pour formaliser, c'est décrire un petit peu ce que pouvait être l'intelligence, ce qu'on entendait donc par le sujet d'étude qui était le nôtre. En général, les approches sont des approches qui essaient de modéliser l'intelligence autour de l'interaction avec un environnement. Vous avez un agent, un environnement qui est dans différents états. L'intelligence, c'est fortement lié à la notion de but. Donc l'agent va avoir un certain but qui est fondamentalement de transformer l'environnement d'un état A vers un état B. Et on va essayer de mesurer l'intelligence tout simplement en mesurant l'efficacité avec laquelle cet agent est capable de faire passer l'environnement de l'état A à l'état B. L'intelligence, du coup, est définie, c'est très important, à travers un environnement, à travers une notion de but, à travers une notion de mesure de l'efficacité d'un chemin pour atteindre un certain but. Typiquement, ça peut être le temps mis, l'énergie consommée, la quantité de mémoire utilisée, donc une forme d'élégance, de compacité des réponses proposées. Et ça, c'est assez bien formalisé dans un courant qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, où on a des modèles statistiques de l'environnement probabilistes, et on est capable de formuler mathématiquement ce qu'est cette optimalité de la stratégie pour aller d'un certain état de l'environnement à l'autre, et donc pour atteindre un certain but. Donc ça nous donne une façon formelle de parler d'intelligence, ça à peu près quel est le sujet. Donc c'est pas une définition qui nous permet de résoudre le problème de l'intelligence artificielle, c'est simplement une façon de définir ce qu'on entend par intelligence. Les points importants, c'est agent, environnement, but, et une mesure de la stratégie pour atteindre ce but. Donc quand on parle d'IA forte, quand on parle de l'ambition des fondateurs de l'intelligence artificielle, on parle fondamentalement d'agents dans un environnement humain, donc l'environnement d'énergie et d'échelle qui est celle de l'être humain moyen, avec des buts qui sont des buts anthropomorphiques, enfin, qui ont une ambition à interagir avec l'humain, donc à résoudre des problèmes qui nous concernent. Et en général, les mesures, ça va être le temps mis, l'énergie consommée, donc ce genre de critères. Donc, quand on parle d'IA forte, c'est ça, c'est fondamentalement un agent dans un environnement humain, et donc, de facto, on va voir un robot qui interagit avec cet environnement. Alors, quand on cherche à résoudre ce problème de l'intelligence artificielle, on a en réalité énormément de composantes qui interagissent pour réaliser le comportement intelligent. Autant d'axes de recherche qui sont, par exemple, l'apprentissage, la capacité à prédire des patterns qui vont revenir de manière récurrente dans l'environnement, la capacité de collaboration, donc ce qu'on pourrait appeler l'intelligence sociale, donc cette capacité à former des plans conjoints avec d'autres agents, la capacité de généralisation, d'analogie, qui est capable de détecter des correspondances entre des patterns, de voir des régularités de plus haut niveau, la capacité de raisonnement, qui est la capacité à enchaîner des faits pour en déduire des nouveaux, par la logique, par exemple. Il y a un certain nombre de sujets voilà qui définissent les composantes qui interviennent dans l'intelligence. Et ce qu'on peut voir à travers l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est une sorte de myopie des chercheurs qui ont, à différentes époques, considérait vraiment que un de ces axes, un de ces sous-problèmes de l'intelligence était en fait la clé qui expliquait à 90% le comportement intelligent qu'ils essayaient de reproduire. Donc par exemple, on va le revoir, moi, dans les années 70, on était persuadé que le raisonnement, c'était vraiment le cœur de l'intelligence. Donc la capacité de raisonnement logique était vraiment le point central, et puis le reste, c'était des choses assez triviales, assez faciles, qui n'étaient pas réellement importantes. Puis cet intérêt focalisé, ben, au cours des différentes... Enfin, des différents paradigmes dans l'histoire de l'intelligence artificielle, ben, a changé. On s'est intéressé plus à différents sujets. Alors qu'en réalité, ce qui est probable, c'est que le problème de l'intelligence est un problème global. On n'est pas en physique, on n'est pas a priori dans un domaine d'études qui aura la bonne idée de simplifier dans une jolie théorie unique. Tout simplement parce que l'intelligence est le produit de l'évolution, et l'évolution procède par ajouts successifs. L'évolution ne fait pas une table rase à un moment donné pour repartir sur de bonnes bases. Quand vous êtes ingénieur, vous développez un système, à un moment vous dites, en fait, ce système, je vais le reconcevoir parce que maintenant j'ai compris quels sont les concepts qui sont sous-jacents et je le reconçois mieux. L'évolution ne peut pas faire ça, elle fonctionne par ajouts incrémentaux et successifs de couches de complexité qui fonctionnent les unes avec les autres. Il n'y a pas de designer et il est possible. Encore une fois, il n'y a pas de certitude non plus, mais il est raisonnable d'imaginer que le résultat n'est pas forcément unifié et descriptible par une théorie unique, très simple, très pure.